Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à la foule : À qui donc vais-je comparer des hommes de cette génération ? À qui ressemblent-ils ? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place qui s'interpellent entre eux. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants de deuil et vous n'avez pas pleuré. Jean-Baptiste est venu en effet. Il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin et vous dites, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit. Et vous dites, c'est un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu se révèle au-dessus. Mais la sagesse de Dieu se révèle juste auprès de tous ses enfants. Acclamons la parole du Seigneur. L'épître adressée à Timothée, du moins l'extrait d'aujourd'hui, je trouve très important, l'extrait, parce que quand on fait attention, il nous ramène au noyau de notre foi. Parce qu'il est question de la religion qui est la nôtre, dit l'auteur. Eh bien, l'essentiel de cette religion-là, c'est le Christ qui s'est fait chair. C'est le Christ qui est apparu aux anges, on parle de la résurrection. C'est le Christ qui est confirmé par l'Esprit Saint. C'est le Christ, en fait, qui est annoncé aux païens. C'est le Christ qui est élevé au ciel. Voyez-vous, on reprend les affirmations fondamentales dans notre foi. Moi, je me dis, c'est important, de temps en temps, de revenir sur notre noyau de foi, pour justement nous ajuster, pour justement continuer à nourrir notre foi et retrouver le chemin qui doit mener réellement vers la voie de la communion avec Dieu. Parce que c'est cette foi-là qui nous permet de nous éclairer et de nous montrer quelle attitude avoir et quelle orientation prendre aujourd'hui. Comme il est important d'y revenir et de méditer et souvent autour de ce noyau de notre foi. En fait, c'est ce noyau que Corneille et Cyprien ont essayé de répandre parce qu'ils ont compris que le Seigneur qui s'est manifesté au monde est un Seigneur qui cherche à rassembler l'humanité, à rassembler les nations, à rassembler les chrétiens et les chrétiennes. Les deux pasteurs ont vécu durant une période difficile de l'Église. Les persécutions sévissaient un peu partout. Alors, il se posait un problème dans l'Église. Il y avait des personnes qui, sous menace de persécution, ont renié leur foi. Mais après, ils ont fait comme une conversion, ils ont voulu reprendre le chemin de leur foi. Alors, il y avait deux positions. Une position rigoriste, ceux qui ont fait de l'apostasie, c'est-à-dire ceux qui ont renié leur foi au moment de la persécution, ces personnes-là ne peuvent plus revenir dans l'Église, qui reste à côté. Alors il y avait cette autre foi soutenue, cette autre position soutenue par Corneille, le pape de Rome, et aussi soutenue par Cyprien, un grand évêque à ce moment-là. Il disait, il y a la miséricorde de Dieu. Que les personnes qui, à un moment donné, étaient forcés, de toute façon ils ont renié à leur foi, mais qui regrettent aujourd'hui, qui veulent revivre cette vie dans notre Église, eh bien on les accueille, on les pardonne. Alors, il y a eu certaines qui ont voulu même créer une Église, je dirais Église de purs. Ce sont ces gens qui n'ont jamais dit non au Seigneur, alors ils ont cherché à rester à part des autres. C'est ainsi que Cyprien, Corneille, vont lutter, travailler pour l'unité de l'Église, la seule que Jésus a voulu créer. Je regarde l'Évangile d'aujourd'hui, le Seigneur qui appelle qui donne cette parabole des enfants qui sont mécontents, qui trouvent des prétextes pour ne pas faire ce qu'ils devraient faire. On joue de la musique pour danser, ne danse pas, de la musique pour pleurer, ne pleure pas, rien ne répond à leurs attentes. Alors le Seigneur donne l'exemple, c'est la même chose que Jean-Baptiste est venu, il menait une vie d'ascète, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, voilà, on dit c'est un procédé. Alors moi je suis venu, le Fils de l'homme, je vis comme tout le monde, je mange, je bois, c'est un glouton, c'est un buveur. Et puis on ajoute, c'est un ami des publicains, un ami des pécheurs. Mais en fait, cette considération-là du Seigneur, ami des publicains, ami des pécheurs, il a été vraiment. Il a été proche des pécheurs, proche de ceux qu'on avait rejetés, proche de ceux qu'on mettait en rancard. Alors lui est venu pour rassembler, pour pardonner, pour montrer et donner une autre chance aux personnes. Voilà pourquoi Corneille et Cyprien avaient compris que le message de fond de l'Évangile, c'est un message de miséricorde, c'est un message de patience, c'est un message d'attente, c'est un message qui offre toujours la deuxième chance aux personnes. Aujourd'hui, comme on le sait, la miséricorde est revenue sur la sellette, et puis on voudrait de plus en plus que l'Église, que les personnes, les chrétiens, chrétiennes, tiennent compte de la miséricorde de Dieu, qu'ils puisent dans la miséricorde de Dieu pour qu'eux-mêmes, les croyants, croyantes, deviennent des personnes miséricordieuses. Demandons la grâce du Seigneur aujourd'hui pour qu'il nous rappelle le tréfonds de notre foi, mais aussi à l'exemple de Corneille et de Cyprien, qui nous donne l'Esprit, l'Esprit qui rassemble, l'Esprit qui pardonne toujours. Amen.